Corinne ou l'Italie, livre 12, chapitre 1er. J'ai été élevée dans la maison paternelle avec une tendresse, avec une bonté que j'admire bien davantage depuis que je connais les hommes. Je n'ai jamais rien aimé plus profondément que mon père, et cependant, il me semble que si j'avais su, comme je le sais à présent, combien son caractère était unique dans le monde, mon affection eût été plus vive encore et plus dévouée. Je me rappelle 1000 traits de sa vie qui me paraissaient tout simples parce que mon père les trouvait tels et qui m'attendrissent douloureusement aujourd'hui que j'en connais la valeur. Les reproches qu'on se fait envers une personne qui nous fut chère et qui n'est plus donnent l'idée de ce que pourraient être les peines éternelles si la miséricorde divine ne venait point au secours d'une telle douleur. J'étais heureux et calme auprès de mon père, mais je souhaitais de voyager avant de m'engager dans l'armée. Il y a dans mon pays la plus belle carrière civile pour les hommes éloquents, mais j'ai même encore une si grande timidité qu'il m'eût été très pénible de parler en public et je préférais l'état militaire. J'aimais mieux avoir affaire au péril certain qu'au dégoût possible. Mon amour-propre est, à tous les égards, plus susceptible qu'ambitieux, et j'ai toujours trouvé que les hommes s'offrent à l'imagination comme des fantômes quand ils vous blâment, et comme des pygmées quand ils vous louent. J'avais envie d'aller en France où venait d'éclater cette révolution, qui, malgré la vieillesse du genre humain, prétendait à recommencer l'histoire du monde. Mon père avait conservé quelques préventions contre Paris qu'il avait vues vers la fin du règne de Louis XV et ne concevait guère comment des coteries pouvaient se changer en nations, des prétentions en vertu et des vanités en enthousiasme. Néanmoins, il consentit au voyage que je désirais parce qu'il craignait de rien exiger. Il avait une sorte d'embarras de son autorité paternelle quand le devoir ne lui commandait pas d'en faire usage. Il redoutait toujours que cette autorité n'altérât la vérité, la pureté d'affection qui tient à ce qu'il y a de plus libre et de plus involontaire dans notre nature. Et il avait avant tout besoin d'être aimé. Il m'accorda donc, au commencement de 1791, lorsque j'avais 21 ans, accompli, 6 mois de séjour en France, et je partis pour connaître cette nation si voisine de nous, et toutefois si différente par ses institutions et les habitudes qui en sont résultées. Je croyais ne jamais aimer ce pays. J'avais contre lui les préjugés que nous inspirent la fierté et la gravité anglaise. Je craignais les moqueries contre tous les cultes du cœur et de la pensée. Je détestais cet art de rabattre tous les élans et de désenchanter tous les amours. Le fond de cette gaieté tant vantée me paraissait bien triste, puisqu'il frappait de mort mes sentiments les plus chers. Je ne connaissais pas alors les Français vraiment distingués. Et ceux-là réunissent aux qualités les plus nobles des manières pleines de charme. Je fus étonné de la simplicité et de la liberté qui régnaient dans les sociétés de Paris. Les plus grands intérêts y étaient traités sans frivolité comme sans pédanterie. Il semblait que les idées les plus profondes fussent devenues le patrimoine de la conversation et que la révolution du monde entier ne se fit que pour rendre la société de Paris plus aimable. Je rencontrai des hommes d'une instruction sérieuse, d'un talent supérieur, animés par le désir de plaire, plus encore que par le besoin d'être utile. Recherchant les suffrages d'un salon, même après ceux d'une tribune, et vivant dans la société des femmes pour être applaudis plutôt que pour être aimés. Tout, à Paris, était parfaitement bien combiné par rapport au bonheur extérieur. Il n'y avait aucune gêne dans les détails de la vie. De l'égoïsme, au fond, mais jamais dans les formes. Un mouvement, un intérêt qui prenait chacun de vos jours, sans vous en laisser beaucoup de fruits, mais aussi sans que jamais vous en sentissiez le poids. une promptitude de conception qui permettait d'indiquer et de comprendre par un mot ce qui aurait exigé ailleurs un long développement. Un esprit d'imitation qui pourrait bien s'opposer à toute indépendance véritable, mais qui introduit dans la conversation cette sorte de bon accord et de complaisance qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Enfin, une manière facile de conduire la vie, de la diversifier, de la soustraire à la réflexion, sans en écarter le charme de l'esprit. À tous ces moyens de s'étourdir, il faut ajouter les spectacles, les étrangers, les nouvelles, et vous aurez l'idée de la ville la plus sociale qui soit au monde. Je m'étonne presque de prononcer son nom dans cet ermitage, au milieu d'un désert, à l'autre extrême des impressions que fait naître la plus active population du monde. Mais je devais vous peindre ce séjour et son effet sur moi. Le croiriez-vous, Corinne, maintenant que vous m'avez connue si sombre et si découragée, je me laissais séduire par ce tourbillon spirituel. Je fus bien aise de n'avoir pas un moment d'ennui. Eussé-je dû n'en avoir pas un de méditation et d'émousser en moi la faculté de souffrir, bien que celle d'aimer s'en ressentît. Si j'en puis juger par moi-même, il me semble qu'un homme d'un caractère sérieux et sensible peut être fatigué par l'intensité même et la profondeur de ses impressions. Il revient toujours à sa nature, mais ce qu'il en fait sortir, au moins pour quelque temps, lui fait du bien. C'est en m'élevant au-dessus de moi-même, Corinne, que vous dissipez ma mélancolie naturelle. C'est en me faisant valoir moins que je ne vaux réellement qu'une femme, dont je vous parlerai bientôt, étourdissait ma tristesse intérieure. Cependant, quoique j'eusse pris le goût et la vie de Paris, elle ne m'aurait pas suffi longtemps si je n'avais pas obtenu l'amitié d'un homme, parfait modèle du caractère français dans son antique loyauté et de l'esprit français dans sa culture nouvelle. Je ne vous dirai pas, mon ami, le véritable nom des personnes dont j'ai à vous parler, et vous comprendrez ce qui m'oblige à vous le cacher en apprenant le reste de cette histoire. Le comte Raymond était de la plus illustre famille de France. Il avait dans l'âme toute la fierté chevaleresque de ses ancêtres, et sa raison adoptait les idées philosophiques quand elles lui commandaient des sacrifices personnels. Il ne s'était point activement mêlé de la Révolution, mais il aimait ce qu'il y avait de vertueux dans chaque parti. Le courage de la reconnaissance dans les uns, l'amour de la liberté dans les autres. Tout ce qui était désintéressé lui plaisait. La cause de tous les opprimés lui paraissait juste, et cette générosité de caractère était encore relevée par la plus grande négligence pour sa propre vie. Ce n'était pas qu'il fût précisément malheureux, mais il y avait un tel contraste entre son âme et la société, telle qu'elle est en général, que la peine journalière qu'il en ressentait la détachait de lui-même. Je fus assez heureux pour intéresser le comte Raymond. Il souhaita de vaincre ma réserve naturelle, et pour en triompher, il mit dans notre liaison une coquetterie d'amitié vraiment romanesque. Il ne connaissait aucun obstacle, ni pour rendre un service, ni pour faire un petit plaisir. Il voulait aller s'établir la moitié de l'année en Angleterre pour ne pas me quitter. J'avais beaucoup de peine à l'empêcher de partager avec moi tout ce qu'il possédait. « Je n'ai qu'une sœur, me disait-il, mariée à un vieillard très riche. Je suis libre de faire ce que je veux de ma fortune. D'ailleurs, cette révolution tournera mal et je pourrais bien être tuée. Faites-moi donc jouir de ce que j'ai en le regardant comme à vous. » Hélas, ce généreux Raymond prévoyait trop bien sa destinée. Quand on est capable de se connaître, on se trompe rarement sur son sort. Et les pressentiments ne sont le plus souvent qu'un jugement sur soi-même qu'on ne sait pas encore tout à fait avouer. Noble, sincère, imprudent même, le comte Raymond mettait en dehors toute son âme. C'était un plaisir nouveau pour moi qu'un tel caractère. Chez nous, les trésors de l'âme ne sont pas facilement exposés au regard. et nous avons pris l'habitude de douter de tout ce qui se montre. Mais cette bonté expansive que je trouvais dans mon ami me donnait des jouissances tout à la fois faciles et sûres, et je n'avais pas un doute sur ses qualités, bien qu'elles se fissent toutes voir dès le premier instant. Je n'éprouvais aucune timidité dans mes rapports avec lui, et ce qui valait mieux encore, il me mettait à l'aise avec moi-même. Tel était l'aimable Français pour qui j'ai senti cette amitié parfaite, cette fraternité de compagnons d'armes, dont on n'est capable que dans la jeunesse, avant qu'on ait connu le sentiment de la rivalité, avant que les carrières irrévocablement tracées sillonnent et partagent le champ de l'avenir. Un jour, le comte Raymond me dit « Ma sœur est veuve, et j'avoue que je n'en suis point affligée. Je n'aimais pas son mariage. Elle avait accepté la main du vieillard qui vient de mourir, dans un moment où nous n'avions de fortune ni l'un ni l'autre, car la mienne vient d'un héritage qui m'est arrivé nouvellement. Mais néanmoins, je m'étais opposée dans le temps à cette union, autant que je l'avais pu. Je n'aime pas qu'on fasse rien par calcul, et encore moins la plus solennelle action de la vie. Mais enfin, elle s'est conduite à merveille avec l'époux qu'elle n'aimait pas. Il n'y a rien à dire à tout cela, selon le monde. Maintenant qu'elle est libre, elle revient demeurer chez moi. Vous la verrez. C'est une personne très aimable à la longue. Et vous autres, Anglais, vous aimez à faire des découvertes. Pour moi, je trouve plus agréable de lire d'abord tout dans la physionomie. Vos manières contenues, cependant, mon cher Oswald, ne m'ont jamais fait de la peine. Mais celles de ma sœur me gênent un peu. » Madame d'Arbigny, la sœur du comte Raymond, arriva le lendemain matin, et le même soir je lui fus présentée. Elle avait des traits semblables à ceux de son frère. Un son de voix analogue, mais une manière d'accentuer toute différente, et beaucoup plus de réserve et de finesse dans l'expression de ses regards. Sa figure, d'ailleurs, était très agréable, sa taille pleine de grâce, et il y avait dans tous ses mouvements une élégance parfaite. Elle ne disait pas un mot qui ne fût convenable. Elle ne manquait à aucun genre d'égard, sans que sa politesse fût en rien exagérée. Elle flattait l'amour-propre avec beaucoup d'adresse et montrait qu'on lui plaisait sans jamais se compromettre. Car dans tout ce qui tenait à la sensibilité, elle s'exprimait toujours comme si, dans ce genre, elle voulait dérober aux autres ce qui se passait dans son cœur. Cette manière avait, avec celle des femmes de mon pays, une ressemblance apparente qui me séduisit. Il me semblait bien que Madame d'Arbigny trahissait trop souvent ce qu'elle prétendait vouloir cacher, et que le hasard n'amenait pas tant d'occasions d'attendrissement involontaire qu'il n'en naissait autour d'elle. Mais cette réflexion traversait légèrement mon esprit, et ce que j'éprouvais habituellement auprès de Madame d'Arbigny m'était doux et nouveau. Je n'avais jamais été flattée par personne. Chez nous, l'on ressent avec profondeur et l'amour et l'enthousiasme qu'il inspire. Mais l'art de s'insinuer dans le cœur par l'amour propre est peu connu. D'ailleurs, je sortais des universités, et jusqu'alors, personne en Angleterre n'avait fait attention à moi. Madame d'Arbigny relevait chaque mot que je disais, elle s'occupait de moi avec une attention constante. Je ne crois pas qu'elle connût bien l'ensemble de ce que je puis être, mais elle me révélait à moi-même par mille observations des détails dont la sagacité me confondait. Il me semblait quelquefois qu'il y avait un peu d'art dans son langage, qu'elle parlait trop bien et d'une voix trop douce, que ses phrases étaient trop soigneusement rédigées. Mais sa ressemblance avec son frère, le plus sincère des hommes, éloignait de mon esprit ses doutes et contribuait à m'inspirer de l'attrait pour elle. Un jour, je disais au comte Raymond l'effet que produisait sur moi cette ressemblance. Il m'en remercia. Mais après un instant de réflexion, il me dit « Ma sœur et moi, cependant, nous n'avons pas de rapport dans le caractère. » Il se tut après ces mots. mais en me les rappelant, ainsi que beaucoup d'autres circonstances, j'ai été convaincue dans la suite qu'il ne désirait pas que j'épousasse sa sœur. Je ne puis douter qu'elle n'en eût l'intention dès lors, quoique cette intention ne fût pas aussi prononcée que dans la suite. Nous passions notre vie ensemble, et les jours s'écoulèrent avec elle, souvent agréablement, toujours sans peine. J'ai réfléchi depuis qu'elle était habituellement de mon avis. Quand je commençais une phrase, elle la finissait, ou prévoyant d'avance celle que j'allais dire, elle se hâtait de s'y conformer. Et cependant, malgré cette douceur parfaite dans les formes, elle exerçait un empire très despotique sur mes actions. Elle avait une manière de me dire « Sûrement vous vous conduirez ainsi, sûrement vous ne ferez pas telle démarche », qui me dominait tout à fait. Il me semblait que je perdrais toute son estime pour moi si je trompais son attente, et j'attachais du prix à cette estime, témoignée souvent avec des expressions très flatteuses. Cependant, Corinne, croyez-moi, car je le pensais même avant de vous connaître, ce n'était point de l'amour que le sentiment que m'inspirait Madame d'Arbigny. Je ne lui avais point dit que je l'aimais. Je ne savais point si une telle belle fille conviendrait à mon père. Il n'était point dans ses idées que j'épousasse une Française, et je ne voulais rien faire sans son aveu. Mon silence, je le crois, déplaisait à Madame d'Arbigny, car elle avait quelquefois de l'humeur dont elle faisait toujours de la tristesse, et qu'elle expliquait après par des motifs touchants, bien que sa physionomie, dans les moments où elle ne s'observait pas, eut quelquefois beaucoup de sécheresse. Mais j'attribuais ces instants d'inégalité à nos rapports ensemble, dont je n'étais pas content moi-même. Car cela fait mal d'aimer un peu et de ne pas aimer tout à fait. Ni le comte Raymond, ni moi, nous ne nous parlions de sa sœur. C'était la première gêne qui eût existé entre nous. Mais plusieurs fois, Madame d'Arbigny m'avait conjuré de ne pas m'entretenir d'elle avec son frère. Et lorsque je m'étonnais de cette prière, elle me disait « Je ne sais si vous êtes comme moi, mais je ne puis souffrir qu'un tiers, même mon ami intime, se mêle de mes sentiments pour un autre. J'aime le secret dans toutes les affections. » Cette explication me plaisait assez, et j'obéissais à ses désirs. Je reçus alors une lettre de mon père qui me rappelait en Écosse. Les 6 mois fixés pour mon séjour en France étaient écoulés, et les troubles de ce pays allant toujours en croissant, il ne pensait pas qu'il convînt à un étranger d'y rester davantage. Cette lettre me causa d'abord une vive peine. Je sentais néanmoins combien mon père avait raison. J'avais un grand désir de le revoir, mais la vie que je menais à Paris, dans la société du comte Raymond et de sa sœur, m'était tellement agréable que je ne pouvais m'en arracher sans un amer chagrin. J'allai tout de suite chez Madame d'Arbigny. Je lui montrai ma lettre, et pendant qu'elle la lisait, j'étais si absorbée par ma peine que je ne vis pas même quelle impression elle en recevait. Je l'entendis seulement qui me disait quelques mots pour m'engager à retarder mon départ, à écrire à mon père que j'étais malade, enfin à louvoyer avec sa volonté. Je me souviens que ce fut le terme dont elle se servit. J'allais répondre, et j'aurais dit ce qui était vrai, c'est que mon départ était résolu pour le lendemain. Lorsque le comte Raymond entra, et sachant ce dont il s'agissait, déclara le plus nettement du monde que je devais obéir à mon père, et qu'il n'y avait pas à hésiter. Je fus étonnée de cette décision si rapide. Je m'attendais à être sollicitée, retenue. Je voulais résister à mes propres regrets. Mais je ne croyais pas que l'on me rendît le triomphe si facile. Et pour un moment, je méconnus le sentiment de mon ami. Il s'en aperçut, me prit la main et me dit « Dans 3 mois, je serai en Angleterre. Pourquoi donc vous retiendrai-je en France? J'ai mes raisons pour n'en rien faire, » ajouta-t-il à demi-voix. Mais sa sœur l'entendit et se hâta de dire qu'il était sage, en effet, d'éviter les dangers que pouvait courir un Anglais en France, au milieu de la Révolution. Je suis bien sûr à présent que ce n'était pas à cela que le comte Raymond faisait allusion. Mais il ne contredit ni ne confirma l'explication de sa sœur. Je partais, il ne crut pas nécessaire de m'en dire davantage. « Si je pouvais être utile à mon pays, je resterais, » continua-t-il. « Mais vous le voyez, il n'y a plus de France. Les idées et les sentiments qui la faisaient aimer n'existent plus. Je regretterai encore le sol, mais je retrouverai ma patrie quand je respirerai le même air que vous. » Combien je fus ému des touchantes expressions d'une amitié si vraie. Combien en ce moment Raymond l'emportait sur sa sœur dans mes affections. Elle le devina bien vite, et ce soir-là même, je la vis sous un point de vue nouveau. Il arriva du monde, elle fit les honneurs de chez elle, à merveille, parla de mon départ avec la plus grande simplicité, et donna généralement l'idée que c'était pour elle l'événement le plus ordinaire. J'avais déjà remarqué dans plusieurs occasions qu'elle mettait un tel prix à la considération que jamais elle ne laissait voir à personne les sentiments qu'elle me témoignait. Mais cette fois c'en était trop, et j'étais tellement blessée de son indifférence que je résolus de partir avant la société et de ne pas rester seule un moment avec elle. Elle vit que je m'approchais de son frère pour lui demander de me dire adieu le lendemain matin avant mon départ. Alors elle vint à moi et me dit assez haut pour que l'on pût l'entendre qu'elle avait une lettre à me remettre pour une de ses amies en Angleterre. Et elle ajouta très vite et très bas « Vous ne regrettez que mon frère, vous ne parlez qu'à lui, et vous voulez me percer le cœur en vous en allant ainsi ?» Puis elle retourna sur le champ s'asseoir au milieu de son cercle. Je fus troublée de ses paroles, et j'allais rester comme elle le désirait, lorsque le comte Raymond me prit par le bras et m'emmena dans sa chambre. Quand tout le monde fut parti, nous entendîmes sonner à coups redoublés dans l'appartement de Madame d'Arbigny. Le comte Raymond n'y faisait pas d'attention. Je le forçai cependant à s'en inquiéter et nous envoyâmes demander ce que c'était. On nous répondit que Madame d'Arbigny venait de se trouver mal. Je fus vivement émue. Je voulais la revoir, retourner chez elle encore une fois. Le comte Raymond m'en empêcha obstinément. « Évitons ces émotions, » dit-il. « Les femmes se consolent toujours mieux quand elles sont seules. » Je ne pouvais comprendre cette dureté pour sa sœur, si fort en contraste avec la constante bonté de mon ami, et je me séparai de lui le lendemain avec une sorte d'embarras qui rendit nos adieux moins tendres. Ah, si j'avais deviné le sentiment plein de délicatesse qui l'empêchait de consentir à ce que sa sœur me captivât, quand il ne la croyait pas faite pour me rendre heureux, si j'avais prévu surtout quels événements allaient nous séparer pour toujours, mes adieux auraient satisfait et son âme et la mienne. Chapitre 2. Oswald cessa de parler pendant quelques instants. Corinne écoutait son récit avec une telle avidité qu'elle se tut aussi dans la crainte de retarder le moment où il reprendrait la parole. « Je serais heureux, » continua-t-il, « si mes rapports avec Madame d'Arbigny avaient fini alors, si j'étais resté près de mon père et si je n'avais pas remis le pied sur la terre de France. Mais la fatalité, c'est-à-dire peut-être la faiblesse de mon caractère, a pour jamais empoisonné ma vie. Oui, pour jamais, cher ami, même auprès de vous. » Je passais près d'une année en Écosse avec mon père, et notre tendresse l'un pour l'autre devint chaque jour plus intime. Je pénétrais dans le sanctuaire de cette âme céleste, et je trouvais dans l'amitié qui m'unissait à lui ces sympathies du sang dont les liens mystérieux tiennent à tout notre être. Je recevais des lettres de Raymond pleines d'affection. Il me racontait les difficultés qu'il trouvait à dénaturer sa fortune pour venir me joindre. Mais sa persévérance dans ce projet était la même. Je l'aimais toujours. Mais quel ami pouvais-je comparer à mon père? Le respect qu'il m'inspirait ne gênait pas ma confiance. J'avais foi aux paroles de mon père, comme à un oracle, et les incertitudes, qui sont malheureusement dans mon caractère, cessaient toujours dès qu'il avait parlé. « Le ciel nous a formés, » dit un écrivain anglais, « pour l'amour de ce qui est vénérable. » Mon père n'a pas su, il n'a pu savoir à quel point je l'aimais, et ma fatale conduite a dû l'en faire douter. Cependant, il a eu pitié de moi. Il m'a plaint en mourant de la douleur que me causerait sa perte. Ah, Corinne, j'avance dans ce triste récit. Soutenez mon courage, j'en ai besoin. Cher ami, lui dit Corinne, trouvez quelque douceur à montrer votre âme si noble et si sensible devant la personne du monde qui vous admire et vous chérit le plus. Il m'envoya pour ses affaires à Londres, reprit Lord Nelville, et je le quittai lorsque je ne devais plus le revoir, sans qu'aucun frémissement m'avertît de mon malheur. Il fut plus aimable que jamais dans nos derniers entretiens. On dirait que l'âme des justes donne, comme les fleurs, plus de parfum vers le soir. Il m'embrassa, les larmes aux yeux. Il me disait souvent qu'à son âge, tout était solennel. Mais moi, je croyais à sa vie comme à la mienne. Nos âmes s'entendaient si bien. Il était si jeune pour aimer que je ne songeais pas à sa vieillesse. La confiance comme la crainte sont inexplicables dans les affections vives. Mon père m'accompagna cette fois jusqu'au seuil de la porte de son château. De ce château que j'ai revu depuis, désert et dévasté comme mon triste cœur. Il n'y avait pas 8 jours que j'étais à Londres quand je reçus de Madame d'Arbigny la fatale lettre dont j'ai retenu chaque mot. « Hier, 10 août, disait-elle, mon frère a été massacré aux Tuileries en défendant son roi. Je suis proscrite comme sa sœur et obligée de me cacher pour échapper à mes persécuteurs. Le comte Raymond avait pris toute ma fortune avec la sienne pour la faire passer en Angleterre. L'avez-vous déjà reçu? Ou savez-vous à qui il l'a confié pour vous la remettre? Je n'ai qu'un mot de lui, écrit du château même, au moment où il sut qu'on se disposait à l'attaquer. Et ce mot me dit seulement de m'adresser à vous pour tout savoir. Si vous pouviez venir ici pour m'emmener, vous me sauveriez peut-être la vie. Car les Anglais voyagent librement encore en France. Et moi, je ne puis obtenir un passeport. Le nom de mon frère me rend suspecte. Si la malheureuse sœur de Raymond vous intéresse assez pour venir la chercher, vous saurez à Paris chez Monsieur Maltig, mon parent, le lieu de ma retraite. Mais si vous avez la généreuse intention de me secourir, ne perdez pas un instant pour l'accomplir, car on dit que la guerre peut éclater d'un jour à l'autre entre nos deux pays. Représentez-vous l'effet que cette lettre produisit sur moi. Mon ami massacré, sa sœur au désespoir, et leur fortune, disait-elle, entre mes mains, bien que je n'en eusse pas reçu la moindre nouvelle. Ajoutez à ces circonstances le danger de Madame d'Arbigny et l'idée qu'elle avait que je pouvais la servir en allant la chercher. Il ne me parut pas possible d'hésiter. Et je partis à l'instant en envoyant un courrier à mon père qui lui portait la lettre que je venais de recevoir et la promesse qu'avant 15 jours je serais revenu. Par un hasard vraiment cruel, l'homme que j'envoyais tomba malade en route et la seconde lettre que j'écrivis à mon père de Douvres lui parvint avant la première. Il sut ainsi mon départ sans en connaître les motifs. Et quand l'explication lui arriva, il avait pris sur ce voyage une inquiétude qui ne se dissipa point. J'arrivai à Paris en 3 jours. J'y appris que Madame d'Arbigny s'était retirée dans une ville de province à 60 lieues, et je continuai ma route pour aller l'y rejoindre. Nous éprouvâmes l'un et l'autre une profonde émotion en nous revoyant. Elle était dans son malheur beaucoup plus aimable qu'auparavant, parce qu'il y avait dans ses manières moins d'art et de contrainte. Nous pleurâmes ensemble son noble frère et les désastres publics. Je m'informais avec anxiété de sa fortune. Elle me dit qu'elle n'en avait aucune nouvelle. Mais, peu de jours après, j'appris que le banquier, auquel le comte Raymond l'avait confiée, la lui avait rendue. Et ce qui est singulier, je l'appris par un négociant de la ville où nous étions, qui me le dit par hasard, et m'assura que Madame d'Arbigny n'avait jamais dû en être véritablement inquiète. Je n'y compris rien, et j'allai chez Madame d'Arbigny pour lui demander ce que cela signifiait. Je trouvai chez elle un de ses parents, Monsieur de Maltigue, qui me dit, avec une promptitude et un sang-froid remarquables, qu'il arrivait à l'instant même de Paris pour apporter à Madame d'Arbigny la nouvelle du retour du banquier qu'elle croyait parti pour l'Angleterre, et dont elle n'avait pas entendu parler depuis un mois. Madame d'Arbigny confirma ce qu'il disait, et je la crus, mais en me rappelant qu'elle a constamment trouvé des prétextes pour ne pas me montrer le prétendu billet de son frère dont elle me parlait dans sa lettre. J'ai compris depuis qu'elle s'était servie d'une ruse pour m'inquiéter sur sa fortune. Au moins est-il vrai qu'elle était riche, et que dans son désir de m'épouser, il ne se mêlait aucun motif intéressé. Mais le grand tort de Madame d'Arbigny était de faire une entreprise du sentiment, de mettre de l'adresse là où il suffisait d'aimer, et de dissimuler sans cesse quand il eût mieux valu montrer tout simplement ce qu'elle éprouvait. Car elle m'aimait alors autant qu'on peut aimer quand on combine ce qu'on fait. Presque ce que l'on pense, et que l'on conduit les relations du cœur comme des intrigues politiques. La tristesse de Madame d'Arbigny ajoutait encore à ses charmes extérieurs et lui donnait une expression touchante qui me plaisait extrêmement. Je lui avais formellement déclaré que je ne me marierais point sans le consentement de mon père, mais je ne pouvais m'empêcher de lui exprimer les transports que sa figure séduisante excitait en moi. Et comme il entrait dans ses projets de me captiver à tout prix, je crus entrevoir qu'elle n'était pas invariablement résolue à repousser mes désirs. Et maintenant que je me retrace ce qui s'est passé entre nous, il me semble qu'elle hésitait par des motifs étrangers à l'amour, et que ses combats apparents étaient des délibérations secrètes. Je me trouvais seule avec elle tout le jour, et malgré les résolutions que la délicatesse m'inspirait, je ne pus résister à mon entraînement, et Madame d'Arbigny m'imposa tous les devoirs en m'accordant tous les droits. Elle me montra plus de douleur et de remords que peut-être elle n'en avait réellement, et me lia fortement à son sort par son repentir même. Je voulais la mener en Angleterre avec moi, la faire connaître à mon père, et la conjurer de consentir à mon union avec elle. Mais elle se refusait à quitter la France sans que je fusse son époux. Peut-être avait-elle raison en cela, mais sachant bien de tout temps que je ne pouvais me résoudre à l'épouser sans l'aveu de mon père, elle avait tort dans les moyens qu'elle prenait, et pour ne pas partir, et pour me retenir, malgré les devoirs qui me rappelaient en Angleterre. Quand la guerre fut déclarée entre les deux pays, mon désir de quitter la France devint plus vif, et les obstacles que Madame d'Arbigny y opposait se multiplièrent. Tantôt elle ne pouvait obtenir un passeport, tantôt, si je voulais partir seule, elle m'assurait qu'elle serait compromise en restant en France après mon départ, parce qu'on la soupçonnerait d'être en correspondance avec moi. Cette femme, si douce, si mesurée, se livrait par moments à des accès de désespoir qui bouleversaient entièrement mon âme. Elle employait les attraits de sa figure et les grâces de son esprit pour me plaire, et sa douleur pour m'intimider. Peut-être les femmes ont-elles tort de commander au nom des larmes et d'asservir ainsi la force à leur faiblesse. Mais quand elles ne craignent pas d'employer ce moyen, il réussit presque toujours, au moins pour un temps. Sans doute, le sentiment s'affaiblit par l'empire même que l'on usurpe sur lui, et la puissance des pleurs, trop souvent exercée, refroidit l'imagination. Mais il y avait en France, dans ce temps, 1000 occasions de ranimer l'intérêt et la pitié. La santé de Madame d'Arbigny paraissait aussi tous les jours plus faible, et c'est encore un terrible moyen de domination pour les femmes que la maladie. Celles qui n'ont pas, comme vous, Corinne, une juste confiance dans leur esprit et dans leur âme, ou celles qui ne sont pas, comme nos Anglaises, si fières et si timides que la feinte leur est impossible, ont recours à l'art pour inspirer l'attendrissement. Et le mieux que l'on puisse attendre d'elles, alors, c'est que leur dissimulation ait pour cause un sentiment frais. Un tiers se mêlait, à mon insu, de mes relations avec Madame d'Arbigny. C'était M. de Maltigue. Elle lui plaisait. Il ne demandait pas mieux que de l'épouser. Mais une immoralité réfléchie le rendait indifférent à tout. Il aimait l'intrigue comme un jeu, même quand le but ne l'intéressait pas, et secondait Madame d'Arbigny dans le désir qu'elle avait de s'unir à moi, quitte à déjouer ce projet si l'occasion de servir le sien se présentait. C'était un homme pour qui j'avais un singulier éloignement. À peine âgé de 30 ans, ses manières et son extérieur étaient d'une sécheresse remarquable. En Angleterre, où l'on nous accuse d'être froid, je n'ai rien vu de comparable au sérieux de son maintien quand il entrait dans une chambre. Je ne l'aurais jamais pris pour un Français s'il n'avait pas eu le goût de la plaisanterie et un besoin de parler très bizarre dans un homme qui paraissait blasé sur tout et qui mettait cette disposition en système. Il prétendait qu'il était né très sensible, très enthousiaste, mais que la connaissance des hommes dans la Révolution de France l'avait détrompé de tout cela. Il avait aperçu, disait-il, qu'il n'y avait de bon dans ce monde que la fortune ou le pouvoir, ou tous les deux, et que les amitiés en général devaient être considérées comme des moyens qu'il faut prendre ou quitter selon les circonstances. Il était assez habile dans la pratique de cette opinion. Il n'y faisait qu'une faute, c'était de la dire. Mais bien qu'il n'eût pas, comme les Français d'autrefois, le désir de plaire, il lui restait le besoin de faire effet par la conversation, et cela le rendait très imprudent. Bien différent en cela de Madame d'Arbigny, qui voulait atteindre son but, mais qui ne se trahissait point comme Monsieur de Maltigue en cherchant à briller par l'immoralité même. Entre ces deux personnes, ce qui était bizarre, c'est que la plus vive cachait bien son secret, et que l'homme froid ne savait pas se taire. Tel qu'il était, ce monsieur de Maltigue, il avait un ascendant singulier sur Madame d'Arbigny. Il la devinait, ou bien lui confiait tout. Cette femme, habituellement dissimulée, avait peut-être besoin de faire de temps en temps une imprudence, comme pour respirer. Au moins est-il certain que, quand monsieur de Maltigue la regardait durement, elle se troublait toujours. S'il avait l'air mécontent, elle se levait pour le prendre à part. S'il sortait avec humeur, elle s'enfermait presque à l'instant pour lui écrire. Je m'expliquais cette puissance de monsieur de Maltigue sur madame d'Arbigny parce qu'il la connaissait dès son enfance et dirigeait ses affaires depuis qu'elle n'avait pas de plus proches parents que lui. Mais le principal motif de ces ménagements singuliers, c'était le projet qu'elle avait formé et que j'appris trop tard, de l'épouser si je la quittais, car elle ne voulait à aucun prix passer pour une femme abandonnée. Une telle résolution devrait faire croire qu'elle ne m'aimait pas, et cependant elle n'avait pour me préférer aucune raison que le sentiment. Mais elle avait mêlé toute sa vie le calcul à l'entraînement et les prétentions factices de la société aux affections naturelles. Elle pleurait parce qu'elle était émue, mais elle pleurait aussi parce que c'est ainsi qu'on attendrit. Elle était heureuse d'être aimée, parce qu'elle aimait, mais aussi parce que cela fait honneur dans le monde. Elle avait de bons sentiments quand elle était toute seule, mais elle n'en jouissait pas si elle ne pouvait les faire tourner au profit de son amour-propre ou de ses désirs. C'était une personne formée par et pour la bonne compagnie, et qui avait cet art de travailler le vrai qui se rencontre si souvent dans les pays où le désir de produire de l'effet par ses sentiments est plus vif que ses sentiments mêmes. Je n'avais pas depuis longtemps de nouvelles de mon père parce que la guerre avait interrompu sa correspondance avec moi. Une lettre, enfin, m'arriva par une occasion. Il m'adjurait de partir au nom de mon devoir et de sa tendresse. Il me déclarait en même temps, de la manière la plus formelle, que si j'épousais Madame d'Herbigny, je lui causerais une douleur mortelle, et me demandait au moins de revenir libre en Angleterre, et de ne me décider qu'après l'avoir entendu. Je lui répondis à l'instant, en lui donnant ma parole d'honneur, que je ne me marierais pas sans son consentement, et l'assurant que dans peu je le rejoindrais. Madame d'Herbigny employa d'abord la prière, puis le désespoir pour me retenir. Et voyant enfin qu'elle ne réussissait pas, je crois qu'elle eut recours à la ruse. Mais comment alors aurais-je pu le soupçonner? Un matin, elle arriva chez moi, pâle, échevelée, et se jeta dans mes bras en me suppliant de la protéger. Elle paraissait mourir de frayeur. À peine pus-je comprendre, à travers son émotion, que l'ordre était venu de l'arrêter, comme sœur du comte Raymond, et qu'il fallait que je lui trouvasse un asile pour la dérober à ceux qui la poursuivaient. À cette époque même, des femmes avaient péri, et toutes les terreurs paraissaient naturelles. Je la menais chez un négociant qui m'était dévoué. Je l'y cachais, je crus la sauver. Et monsieur de Maltigue et moi, nous avions seuls le secret de sa retraite. Comment, dans cette situation, ne pas s'intéresser vivement au sort d'une femme? Comment se séparer d'une personne proscrite? Quel est le jour, quel est le moment où il se peut qu'on lui dise « Vous avez compté sur mon appui et je vous le retire ». Cependant, le souvenir de mon père me poursuivait continuellement, et dans plusieurs occasions, j'essayais d'obtenir de Madame d'Herbigny la permission de partir seule. Mais elle me menaça de se livrer à ses assassins si je la quittais, et sortit deux fois en plein jour dans un trouble affreux qui me pénétra de douleur et de crainte. Je la suivis dans la rue en la conjurant en vain de revenir. Heureusement, par hasard ou par combinaison, nous rencontrâmes chaque fois monsieur de Maltigue et il la ramena, en lui faisant sentir l'imprudence de sa conduite. Alors je me résignai à rester, et j'écrivis à mon père en motivant autant que je le pus ma conduite. Mais je rougissais d'être en France, au milieu des événements affreux qui s'y passaient, et lorsque mon pays était en guerre avec les Français. Monsieur de Maltigue se moquait souvent de mes scrupules, mais tout spirituel qu'il était, il ne prévoyait pas ou ne se donnait pas la peine d'observer l'effet de ces plaisanteries, car elles réveillaient en moi tous les sentiments qu'il voulait éteindre. Madame d'Herbigny remarquait bien l'impression que je recevais, mais elle n'avait point d'empire sur monsieur de Maltigue, qui se décidait souvent par le caprice au défaut de l'intérêt. Elle recourait, pour m'attendrir, à sa douleur véritable, à sa douleur exagérée. Elle se servait de la faiblesse de sa santé autant pour plaire que pour toucher, car elle n'était jamais plus attrayante que quand elle s'évanouissait à mes pieds. Elle savait embellir sa beauté comme tout le reste de ses agréments, et ses charmes extérieurs eux-mêmes étaient habilement combinés avec ses émotions pour me captiver. Je vivais ainsi toujours troublée, toujours incertain, tremblant quand je recevais une lettre de mon père, plus malheureuse encore quand je n'en recevais pas, retenue par l'attrait que je ressentais pour Madame d'Herbigny, et surtout par la peur de son désespoir. Car, par un mélange singulier, c'était la personne la plus douce dans l'habitude de la vie, la plus égale, souvent même la plus enjouée, et néanmoins la plus violente dans une scène. Elle voulait enchaîner par le bonheur et par la crainte, et transformait ainsi toujours son naturel en moyen. Un jour, c'était au mois de septembre 1793, il y avait plus d'un an déjà que j'étais en France. Je reçus une lettre de mon père, conçue en peu de mots. Mais ces mots étaient si sombres et si douloureux qu'il faut, Corinne, m'épargner de vous les dire, il me ferait trop de mal. Mon père était déjà malade, mais il ne me le dit pas. sa délicatesse et sa fierté l'en empêchèrent. Cependant, toute sa lettre exprimait tant de douleur, et sur mon absence et sur la possibilité de mon mariage avec Madame d'Herbigny, que je ne conçois pas encore comment, en la lisant, je n'ai pas prévu le malheur dont j'étais menacée. Je fus assez émue néanmoins pour ne plus hésiter, et j'allai chez Madame d'Herbigny, parfaitement décidée à prendre congé d'elle. Elle aperçut bien vite que mon parti était pris, et se recueillant en elle-même, tout à coup elle se leva et me dit « Avant de partir, il faut que vous sachiez un secret que je rougissais de vous avouer. Si vous m'abandonnez, ce ne sera pas moi seule que vous ferez mourir, et le fruit de ma honte et de mon coupable amour périra dans mon sein avec moi. » Rien ne peut exprimer l'émotion que j'éprouvais. Ce devoir sacré, ce devoir nouveau, s'empara de toute mon âme, et je fus soumis à Madame d'Herbigny comme l'esclave le plus dévoué. Je l'aurais épousé comme elle le voulait, s'il ne se fût pas rencontré dans ce moment les plus grands obstacles à ce qu'un Anglais pût se marier en France, en déclarant, comme il le fallait, son nom à l'officier civil. J'ajournai donc notre union jusqu'au moment où nous pourrions aller ensemble en Angleterre, et je résolus de ne pas quitter Madame d'Herbigny jusqu'alors. Elle se calma d'abord, quand elle fut tranquillisée sur le danger prochain de mon départ. Mais elle recommença bientôt après à se plaindre et à se montrer tour à tour blessée et malheureuse de ce que je ne surmontais pas toutes les difficultés pour l'épouser. J'aurais fini par céder à sa volonté. J'étais tombée dans la mélancolie la plus profonde. Je passais des jours entiers chez moi, sans pouvoir en sortir. J'étais en proie à une idée que je ne m'avouais jamais et qui me persécutait toujours. J'avais un pressentiment de la maladie de mon père, et je ne voulais pas croire à mon pressentiment, que je prenais pour une faiblesse. Par une bizarrerie, résultat de l'effroi que me causait la douleur de Madame d'Herbigny, je combattis mon devoir comme une passion, et ce qu'on aurait pu croire une passion me tourmentait comme un devoir. Madame d'Herbigny m'écrivait sans cesse pour m'engager à venir chez elle. J'y venais, et quand je la voyais, je ne lui parlais pas de son état, parce que je n'aimais pas à rappeler ce qui lui donnait des droits sur moi. Il me semble à présent qu'elle aussi m'en parlait moins qu'elle n'aurait dû le faire, mais je souffrais trop alors pour rien remarquer. Enfin, une fois que j'étais restée 3 jours chez moi, dévorée de remords, écrivant 20 lettres à mon père et les déchirant toutes, monsieur de Maltigue, qui ne venait guère me voir parce que nous ne nous convenions pas, arriva, député par madame d'Herbigny pour m'arracher à ma solitude. Mais s'intéressant assez peu, comme vous allez en juger, au succès de son ambassade, il aperçut en entrant, avant que j'eusse eu le temps de le cacher, que j'avais le visage couvert de larmes. « À quoi bon cette douleur, mon cher ? » me dit-il. « Quittez ma cousine, ou bien épousez-la. Ces deux partis sont également bons, puisqu'ils en finissent. »« Il y a des situations dans la vie, » lui répondis-je, où même en se sacrifiant, on ne sait pas encore comment remplir tous ses devoirs. « C'est qu'il ne faut pas se sacrifier, » reprit monsieur de Maltigue. « Je ne connais, quant à moi, aucune circonstance où cela soit nécessaire. Avec de l'adresse, on se tire de tout. L'habileté est la reine du monde. » « Ce n'est pas l'habileté que j'envie, » lui dis-je, « mais je voudrais au moins, je vous le répète, en me résignant à n'être pas heureux, ne pas affliger ce que j'aime. Croyez-moi, dit monsieur de Maltigue, ne mêlez pas à cette œuvre difficile qu'on appelle vivre le sentiment qui la complique encore plus. C'est une maladie de l'âme. J'en suis atteint quelquefois, tout comme un autre, mais quand elle m'arrive, je me dis que cela passera, et je me tiens toujours parole. Mais, lui répondis-je, en cherchant à rester comme lui dans les idées générales, car je ne pouvais ni ne voulais lui témoigner aucune confiance. Quand on pourrait écarter le sentiment, il resterait toujours l'honneur et la vertu, qui s'opposent souvent à nos désirs en tout genre. « L'honneur, reprit Monsieur de Maltigue. Entendez-vous, par l'honneur, se battre quand on est insulté? À cet égard, il n'y a pas de doute. Mais sous tous les autres rapports, quel intérêt aurait-on à se laisser entraver par mille délicatesses vaines?
Quel intérêt? Interrompis-je. Il me semble que ce n'est pas là le mot dont il s'agit.
À parler sérieusement, continua M. de Maltigue, il en est peu qui aient un sens aussi clair. Je sais bien qu'autrefois l'on disait « un honorable malheur, un glorieux revers ». Mais aujourd'hui que tout le monde est persécuté, les coquins comme ce qu'on est convenu d'appeler les honnêtes gens, il n'y a de différence dans ce monde qu'entre les oiseaux pris au filet et ceux qui y ont échappé.
« Je crois à une autre différence, lui répondis-je.
La prospérité méprisée et les revers honorés par l'estime des hommes de bien.
Trouvez-les-moi donc, reprit M. de Maltigue, ces hommes de bien qui vous consolent de vos peines par leur courageuse estime.
Il me semble, au contraire, que la plupart des personnes soi-disant vertueuses, si vous êtes heureux, vous excusent, si vous êtes puissant, vous aiment.
C'est très beau sans doute à vous de ne pas savoir contrarier un père qui devrait à présent ne plus se mêler de vos affaires. Mais il ne faudrait pas pour cela perdre votre vie ici de toutes les façons. Quant à moi, quoi qu'il m'arrive, je veux à tout prix épargner à mes amis le chagrin de me voir souffrir, et à moi le spectacle du visage allongé de la consolation.
Je croyais, interrompis-je vivement, que le but de la vie d'un honnête homme n'était pas le bonheur, qui ne sert qu'à lui, mais la vertu qui sert aux autres.
« la vertu, » dit M. de Maltigue en hésitant un peu, puis se décidant à la fin.
« C'est un langage pour le vulgaire, que les augures ne peuvent se parer entre eux sans rire. Il y a de bonnes âmes, que de certains mots, de certains sons harmonieux remuent encore. » C'est pour elle que l'on fait jouer l'instrument. Mais toute cette poésie que l'on appelle la conscience, le dévouement, l'enthousiasme, a été inventée pour consoler ceux qui n'ont pas su réussir dans le monde. C'est comme le De Profundis que l'on chante pour les morts. Les vivants, quand ils sont dans la prospérité, ne sont pas du tout curieux d'obtenir ce genre d'hommage.
Je fus tellement irritée de ce discours que je ne pus m'empêcher de dire avec hauteur
« Je serais fâchée, monsieur, si j'avais des droits sur la maison de Madame d'Arbigny, qu'elle reçut chez elle un homme qui se permet une telle manière de penser et de s'exprimer. »
« Vous pouvez, à cet égard, répondit Monsieur de Maltigue, quand il en sera temps, décider ce qui vous plaira. Mais si ma cousine m'en croit, elle n'épousera point un homme qui se montre si malheureux de la possibilité de cette union. Depuis longtemps, elle peut vous le dire, je lui reproche sa faiblesse et tous les moyens qu'elle emploie pour un but qui n'en vaut pas la peine. »
À ce mot, que l'accent rendait encore plus insultant, je fis signe à Monsieur de Maltigue de sortir avec moi. Et pendant le chemin, je dois dire qu'il continuait à développer son système avec le plus grand sang-froid du monde. Et pouvant mourir dans peu d'instants, il ne disait pas un mot qui fût religieux ni sensible.
Si j'avais donné dans toutes vos falaises à vous autres jeunes gens, me disait-il, pensez-vous que ce qui se passe dans mon pays ne m'en aurait pas guéri? Quand avez-vous vu que d'être scrupuleux à votre manière servit à rien?
Je conviens avec vous, lui dis-je, que dans votre pays, à présent, cela sert un peu moins qu'ailleurs. Mais avec le temps, ou par-delà le temps, tout a sa récompense.
Oui, reprit M. de Maltigue, en faisant entrer le ciel dans ses calculs.
Et pourquoi pas, lui dis-je, l'un de nous va peut-être savoir ce qui en est.
Si c'est moi qui dois mourir, continua-t-il en riant, je suis bien sûr que je n'en saurai rien. Si c'est vous, vous ne reviendrez pas éclairer mon âme.
En chemin, je pensais que si j'étais tuée par M. de Maltigue, je n'avais pris aucune précaution pour faire savoir mon sort à mon père, ni pour donner à Madame d'Herbigny une partie de ma fortune à laquelle je lui croyais des droits. Pendant que je faisais ces réflexions, nous passâmes devant la maison de Monsieur de Maltigues, et je lui demandai la permission d'y monter pour écrire 2 lettres. Il y consentit. Et lorsque nous continuâmes notre route pour sortir de la ville, je les lui remis et je lui parlai de Madame d'Herbigny avec beaucoup d'intérêt, en la lui recommandant comme à un ami que je croyais sûr. Cette preuve de confiance le toucha, car il faut observer, à la gloire de l'honnêteté, que les hommes qui professent le plus ouvertement l'immoralité sont très flattés si, par hasard, on leur donne une marque d'estime. La circonstance aussi dans laquelle nous nous trouvions était assez grave pour que M. de Maltigues en fût peut-être ému. Mais comme pour rien au monde il n'aurait voulu qu'on le remarquât, il dit en plaisantant ce qui lui était inspiré, je le crois, par un sentiment plus sérieux. « Vous êtes une honnête créature, mon cher Nelville. Je veux faire pour vous quelque chose de généreux. On dit que cela porte bonheur. Et la générosité est en effet une qualité si enfantine qu'elle doit être plutôt récompensée dans le ciel que sur la terre. Mais avant de vous servir, il faut que nos conditions soient bien faites. Quoi que je vous dise, nous ne nous en battrons pas moins. » Je répondis à ces mots par un consentement très dédaigneux, à ce que je crois, car je trouvais la précaution oratoire au moins inutile. Monsieur de Maltigues continua d'un ton sec et dégagé. « Madame d'Herbigny ne vous convient pas. Vos caractères n'ont aucun rapport ensemble. Votre père, d'ailleurs, serait désespéré si vous faisiez ce mariage, et vous seriez désespéré d'affliger votre père. Il vaut donc mieux que si je vis, ce soit moi qui épouse Madame d'Herbigny. Et si vous me tuez, il vaut mieux encore qu'elle en épouse un troisième, car c'est une personne d'une haute sagesse que ma cousine, et qui, lors même qu'elle aime, prend toujours de sages précautions pour le cas où on ne l'aimerait plus. Vous apprendrez tout cela par ses lettres. Je vous les laisse après moi. Vous les trouverez dans mon secrétaire, dont voici la clé. Je suis liée avec ma cousine depuis qu'elle est au monde, et vous savez que, bien qu'elle soit très mystérieuse, elle ne me cache aucun de ses secrets. Elle croit que je ne dis que ce que je veux. Il est vrai que je ne suis entraînée par rien. Mais aussi, je ne mets pas d'importance à grand-chose, et je pense que nous autres hommes, nous nous devons de nous rien taire à l'égard des femmes. Aussi bien, si je meurs, c'est pour les beaux yeux de Madame d'Herbigny que cet accident m'arrivera. Et quoique je sois prêt à périr pour elle de bonne grâce, je ne lui suis pas trop obligé de la situation où elle m'a mis par sa double intrigue. « Au reste, ajouta-t-il, il n'est pas dit que vous me tuerez. » Et en achevant ces mots, comme nous étions hors de la ville, il tira son épée et se mit en garde. Il avait parlé avec une vivacité singulière, et j'étais restée confondue de ce qu'il m'avait dit. L'approche du danger, sans le troubler, l'animait pourtant davantage, et je ne pouvais deviner si c'était la vérité qu'il trahissait ou le mensonge qu'il forgeait pour se venger. Néanmoins, dans cette incertitude, je ménageais beaucoup sa vie. Il était moins adroit que moi dans les exercices du corps, et 10 fois j'aurais pu lui plonger mon épée dans le cœur, mais je me contentais de le blesser au bras et de le désarmer. Il parut sensible à mon procédé, et je lui rappelai, en le conduisant chez lui, la conversation qui avait précédé l'instant où nous nous étions battus. Il me dit alors « Je suis fâché d'avoir trahi la confiance de ma cousine. Le péril est comme le vin, il monte la tête. Mais enfin, je m'en console, car vous n'auriez pas été heureux avec Madame d'Herbigny. Elle est trop rusée pour vous. » Moi, cela m'est égal, car bien que je la trouve charmante et que son esprit me plaise extrêmement, elle ne me fera jamais rien faire à mon détriment. Et nous nous servirons très bien en tout, parce que le mariage rendra nos intérêts communs. Mais vous, qui êtes romanesque, vous auriez été sa dupe. Il ne tenait qu'à vous de me tuer, et je vous dois la vie. Je ne puis donc vous refuser les lettres que je vous avais promises après ma mort. Lisez-les. Partez pour l'Angleterre
et ne soyez pas trop tourmenté des chagrins de Madame d'Herbigny. Elle pleurera parce qu'elle vous aime, mais elle se consolera, parce que c'est une femme assez raisonnable pour ne pas vouloir être malheureuse, et surtout passer pour l'être. Dans 3 mois, elle sera Madame de Maltigue. » Tout ce qu'il me disait était vrai. Les lettres qu'il me montra le prouvèrent. Je restais convaincue que Madame d'Herbigny n'était point dans l'état qu'elle avait feint de m'avouer en rougissant pour me contraindre à l'épouser, et qu'elle m'avait à cet égard indignement trompée. Sans doute elle m'aimait, puisqu'elle le disait dans ses lettres à Monsieur de Maltigue lui-même. Mais elle le flattait avec tant d'art, mais elle lui laissait tant d'espérance, et montrait pour lui plaire un caractère si différent de celui qu'elle m'avait toujours fait voir, qu'il me fut impossible de douter qu'elle ne le ménageât dans l'intention de l'épouser si notre mariage n'avait pas lieu. Telle était la femme, Corinne, qui m'a coûté pour toujours le repos du cœur et de la conscience. Je lui écrivis en partant et je ne la revis plus. Et comme M. de Maltigue l'avait prédit, j'ai su depuis qu'elle l'avait épousé. Mais j'étais loin d'envisager alors le malheur qui m'attendait. Je croyais obtenir mon pardon de mon père. J'étais sûre qu'en lui disant combien j'avais été trompée, il m'aimerait davantage, puisqu'il me saurait plus à plaindre. Après un voyage de près d'un mois, jour et nuit, à travers l'Allemagne, j'arrivai en Angleterre, plein de confiance dans l'inépuisable bonté paternelle. Corinne, en débarquant, un papier public m'annonça que mon père n'était plus. 20 mois se sont passés depuis ce moment, et il est toujours devant moi comme un fantôme qui me poursuit. Les lettres qui formaient ces mots « Lord Nelville vient de mourir », ces lettres étaient flamboyantes. Le feu du volcan qui est là devant nous est moins effrayant qu'elles. Ce n'est pas tout encore. J'appris qu'il était mort profondément affligé de mon séjour en France, craignant que je renonçasse à la carrière militaire, que je n'épousasse une femme dont il pensait peu de bien, et que, me fixant dans un pays en guerre avec le mien, je ne me perdisse entièrement de réputation en Angleterre. Qui sait si ces douloureuses pensées n'ont pas abrégé ses jours? Corinne, Corinne, ne suis-je pas un assassin? Ne le suis-je pas? Dites-le-moi. Non! s'écria-t-elle. « Non, vous n'êtes que malheureux. C'est la bonté, c'est la générosité qui vous ont entraîné. Je vous respecte autant que je vous aime. Jugez-vous dans mon cœur, prenez-le pour votre conscience. La douleur vous égare. Croyez celle qui vous chérit. » Ah, l'amour, tel que je le sens, n'est point une illusion. C'est parce que vous êtes le meilleur, le plus sensible des hommes, que je vous admire et vous adore. « Corinne, lui dit Oswald, cet hommage ne m'est pas dû. Mais il se peut cependant que je ne sois pas si coupable. Mon père m'a pardonné avant de mourir. J'ai trouvé dans un dernier écrit de lui, qui m'était adressé, de douces paroles. Une lettre de moi lui était parvenue qui m'avait un peu justifiée, mais le mal était fait, et la douleur qui venait de moi avait déchiré son cœur. Quand je rentrais dans son château, quand ses vieux serviteurs m'entourèrent, je repoussais leurs consolations. Je m'accusais devant eux, j'allais me prosterner sur sa tombe. J'y jurais, comme si le temps de réparer existait encore pour moi, que jamais je ne me marierais sans le consentement de mon père. Hélas, que promettais-je à celui qui n'était plus? Que signifiaient alors ces paroles de mon délire? Je dois les considérer au moins comme un engagement de ne rien faire qui l'eût désapprouvé pendant sa vie. Corinne, chère amie, pourquoi ces mots vous troublent-ils? Mon père a pu me demander le sacrifice d'une femme dissimulée, qui ne devait qu'à son adresse le goût qu'elle m'inspirait. Mais la personne la plus vraie, la plus naturelle et la plus généreuse, celle pour qui j'ai senti le premier amour, celui qui purifie l'âme au lieu de l'égarer. Pourquoi les êtres célestes voudraient-ils me séparer d'elle? Lorsque j'entrai dans la chambre de mon père, je vis son manteau, son fauteuil, son épée, qui étaient encore là, comme autrefois.
encore là, mais sa place était vide, et mes cris l'appelaient en vain. Ce manuscrit, ce recueil de ses pensées, est tout ce qui me répond. Vous en connaissez déjà quelques morceaux, dit Oswald en le donnant à Corinne. Je le porte toujours avec moi. Lisez ce qu'il écrivait sur le devoir des enfants envers leurs parents. Lisez, Corinne. Votre douce voix me familiarisera peut-être avec ces paroles. Corinne obéit à la volonté d'Oswald et lut ce qui suit. Ah, qu'il faut peu de choses pour rendre défiant d'eux-mêmes un père, une mère avancée dans la vie. Ils croient aisément qu'ils sont de trop sur la terre. À quoi se croirait-il bon pour vous qui ne leur demandez plus de conseils? Vous vivez en entier dans le moment présent. Vous y êtes consigné par une passion dominante. Et tout ce qui ne se rapporte pas à ce moment vous paraît antique et suranné. Enfin, vous êtes tellement en votre personne et de cœur et d'esprit que, croyant former à vous seul un point historique, les ressemblances éternelles entre le temps et les hommes échappent à votre attention, et l'autorité de l'expérience vous semble une fiction ou une vaine garantie destinée uniquement au crédit des vieillards et aux dernières jouissances de leur amour-propre. Quelle erreur est la vôtre ? Le monde, ce vaste théâtre, ne change pas d'acteur. C'est toujours l'homme qui s'y montre en scène. Mais l'homme ne se renouvelle point. Il se diversifie, et comme toutes ses formes sont dépendantes de quelques passions principales dont le cercle est depuis longtemps parcouru, il est rare que dans les petites combinaisons de la vie privée, l'expérience, cette science du passé, ne soit la source féconde des enseignements les plus utiles. Honneur donc aux pères et aux mères, honneur à eux, honneur et respect, ne fût-ce que pour leur règne passé, pour ce temps dont ils ont été seuls maîtres et qui ne reviendra plus, ne fût-ce que pour ces années à jamais perdues, dont ils portent sur le front l'auguste empreinte. Voilà votre devoir, enfant présomptueux, et qui paraissait impatient de courir seul la route de la vie. Ils s'en iront, vous n'en pouvez rien. Ces parents qui tardent à vous faire place. Ce père dont les discours ont encore une teinte de sévérité qui vous blesse. Cette mère dont le vieil âge vous impose des soins qui vous importunent. Ils s'en iront, ces surveillants attentifs de votre enfance et ces protecteurs animés de votre jeunesse. Ils s'en iront, et vous chercherez en vain de meilleurs amis. Ils s'en iront, et dès qu'ils ne seront plus, ils se présenteront à vous sous un nouvel aspect. Car le temps qui vieillit les gens présents à notre vue les rajeunit pour nous quand la mort les a fait disparaître. Le temps leur prête alors un éclat qui nous était inconnu. Nous les voyons dans le tableau de l'éternité où il n'y a plus d'âge, comme il n'y a plus de graduation. Et s'ils avaient laissé sur la terre un souvenir de leur vertu, nous les ornerions en imagination d'un rayon céleste. Nous les suivrions de nos regards dans le séjour des élus. Nous les contemplerions dans ces demeures de gloire et de félicité. Et près des vives couleurs dont nous composerions leur sainte auréole, nous nous trouverions effacés au milieu même de nos beaux jours, au milieu des triomphes dont nous sommes le plus éblouis. Corinne, s'écria Lord Nelville avec une douleur déchirante. « Pensez-vous que c'est contre moi qu'il écrivait ces éloquentes plaintes ?»« Non, non, » répondit Corinne. « Vous savez qu'il vous chérissait, qu'il croyait à votre tendresse. Et je tiens de vous que ces réflexions furent écrites longtemps avant que vous eussiez eu le tort que vous vous reprochez. Écoutez plutôt, » continua Corinne en parcourant le recueil qu'elle avait encore entre les mains. Écoutez ces réflexions sur l'indulgence qui sont écrites quelques pages plus loin. Nous marchons dans la vie, environnés de pièges et d'un pas chancelant. Nos sens se laissent séduire par des amorces trompeuses. Notre imagination nous égare par de fausses lueurs. Et notre raison elle-même reçoit chaque jour de l'expérience le degré de lumière qui lui manquait et la confiance dont elle a besoin. Tant de dangers unis à une si grande faiblesse, tant d'intérêts divers avec une prévoyance limitée, une capacité si restreinte. Enfin, tant de choses inconnues et une si courte vie. Toutes ces circonstances, toutes ces conditions de notre nature, ne sont-elles pas pour nous un avertissement du haut rang que nous devons accorder à l'indulgence dans l'ordre des vertus sociales? Hélas, où est-il l'homme qui soit exempt de faiblesse? Où est-il l'homme qui n'ait aucun reproche à se faire? Où est-il l'homme qui puisse regarder en arrière de sa vie sans éprouver un seul remords ou sans connaître aucun regret? Celui-là seul est étranger aux agitations d'une âme timorée qui ne s'est jamais examiné lui-même, qui n'a jamais séjourné dans la solitude de sa conscience. « Voilà, reprit Corinne, les paroles que votre père vous adresse du haut du ciel. Voilà celles qui sont pour vous. » « Cela est vrai, dit Oswald. Oui, Corinne, vous êtes l'ange des consolations, vous me faites du bien. Mais si j'avais pu le voir un moment avant sa mort, s'il avait su de moi que je n'étais pas indigne de lui, s'il m'avait dit qu'il le croyait, je ne serais pas agitée par les remords comme le plus criminel des hommes. Je n'aurais pas cette conduite vacillante, cette âme troublée qui ne promet de bonheur à personne. Ne m'accusez pas de faiblesse, mais le courage ne peut rien contre la conscience. C'est d'elle qu'il vient. Comment pourrait-il triompher d'elle? À présent, même que l'obscurité s'avance, il me semble que je vois dans ces nuages les sillons de la foudre qui me menace. Corinne, Corinne, rassurez votre malheureuse amie ou laissez-moi coucher sur cette terre, qui s'entr'ouvrira peut-être à mes cris et me laissera pénétrer jusqu'au séjour des morts.